Vous écoutez France Musique.
J'appelle dans le vide, je t'appelle au milieu de ma nuit. Mes mots s'en vont rapides, iront-ils jusqu'à toi aujourd'hui? Allô, allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel? Ici, même sous la pluie, l'odeur me poursuit d'un peu d'estérel. Je suis dans la cabine, enfermée dans la cage de verre. Et toi, je t'imagine dans un bar qui s'ouvre sur la mer. Allô, allô, tu m'entends?
Allô, allô, bah oui, je vous entends, la communication est même bonne. Vive l'été sur France Musique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un matin des musiciens un tout petit peu particulier, exceptionnel à sa manière. Je vous en parlais en tout début de semaine. On vous a gardé un matin des musiciens que nous avons enregistré le 12 juin dernier et pour lequel 8 musiciens avaient accepté de venir pour jouer et pour parler d'un sujet absolument passionnant. Un corpus ô combien corpulent que nous avons décidé de prendre à bras le corps, les concertos pour clavecin de Jean-Sébastien Bach, avec à la tête de l'ensemble Nacarenza, le claveciniste Jean Rondeau. Bienvenue à tout le monde et bienvenue à vous. Concerto pour clavier, c'est quand même la case du réemploi pour Jean-Sébastien Bach qui lui permet de transcrire et transposer vite et à moindre frais des concertos solistes antérieurs, notamment pour le violon. Ça lui permet également d'intégrer l'influence vivaldienne de l'aura violonistique, mais dans un écrin polyphonique typiquement allemand. Ça lui permet enfin de réfléchir aux limites même de la technique du clavecin, au sens de l'alternance entre soliste et tutti. Donc, vous l'aurez compris, les concertos pour clavier de Jean-Sébastien Bach permettent beaucoup de choses, mais nous posent aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est donc le sujet de ce matin des musiciens, emmené par vous, Jean Rondeau. Bonjour.
Bonjour, Edouard.
Comment allez-vous?
Ben, ça va.
Alors, vous êtes venu avec Anna Besson à la flûte, Louis Créache au violon, Fiona Emilie Poupard au violon, Laurent Muller à l'alto, Julien Hensworth au violoncelle, Yuen Kadiou à la contrebasse, vous, clavecin à direction, Jean Rondeau. Un grand bonjour à vous huit.
Salut.
Bonjour.
Bienvenue dans le matin des musiciens. Alors Jean Rondeau, c'est vrai qu'en préparant cette émission, bon, on s'est posé beaucoup de questions, ça vaut mieux.
Oui.
Par rapport à ce corpus, par rapport à l'histoire du concerto pour clavecin en Allemagne, je parlais de quelques-unes des questions qu'on s'est posées sur la question du réemploi, de l'influence italienne, de pourquoi composer cela dans un pays qui a une forte tradition organistique, des questions d'effectifs également. En gros, vous, quels enjeux vous y trouvez d'un point de vue vraiment d'interprète au clavecin?
Ben, je trouve que déjà par rapport à la composition qui est devant nous, on a tout de suite la question de la forme, je trouve. Enfin, ce n'est pas de la forme forcément musicale, mais plutôt la forme instrumentale, de composition et de positionnement aussi des instruments et des solistes par rapport à ce qu'on va appeler les tutti, etc. C'est quand même assez compliqué dans la mesure déjà où en fait le concerto pour clavecin n'existe pas vraiment avant. Il n'y a pas de tradition de ça, ça naît un peu soudainement. Et en plus de ça, parce que le clavecin est un instrument qui a un certain volume sonore et du coup qui demande un certain effectif qui va être assez réduit. Donc, est-ce qu'on va parler de concerto? Est-ce qu'on va parler de musique de chambre? Enfin, il va y avoir tout ce jeu entre les nominatifs et l'effectif, en fait, un petit peu. Et tout ça va soulever, évidemment, des questions musicales derrière, d'interprétation.
Un magnifique clavecin qui est juste devant nous. Alors, on va essayer de vous prendre une photo et vous le mettre sur le site du Matin des musiciens. Un magnifique clavecin d'Anthony Saïdet. Avec un accord, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, Jean Rondeau, que vous avez retrouvé, qui est un accord mentionné, en tout cas, à partir d'un orgue qui, je crois, figure à Strasbourg. qui est un accord de 1720 sur lequel on aura en tout cas magnifique clavecin. Et on va ouvrir ce matin des musiciens tout de suite avec vous, l'ensemble Canarensa.
Non, c'est l'inverse, Nacarenza.
Parce que c'est qui en fait?
En fait, il fallait donner un nom d'ensemble. Déjà, il faut toujours nommer les choses, donc ce qui pose toujours un peu des problèmes, parce que c'est un difficile métier, en plus de celui d'être musicien ou claveciniste ou j'en sais rien. Bref, tout ça pour dire qu'il fallait nommer un nom d'ensemble. Donc voilà, je suis avec un ensemble de musiciens surtout. Nacarenza, c'est le nom d'une compositrice en fait du XIIIe siècle, et du coup qui s'avérerait être peut-être la toute première compositrice. Voilà, je trouvais ça sympa, original.
Et donc, ça a été choisi quand il y a deux heures, trois heures
clin d'œil. Oui, est-ce que ça a été même choisi?
Trois points de suspension.
Voilà.
Alors, bah justement, concerto pour clavier, on parlait de l'histoire. Il y a quand même une date très importante. C'est en gros ce cinquième brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, l'art du concerto dédié au margrave Christian Ludwig de Brandebourg, que Bach rencontre lors d'un voyage, ça c'est pour le côté historique, dans les années 1718 à Berlin, alors que Jean-Sébastien Bach cherchait un clavecin à ramener à Köthen. Donc il est là, il essaie des clavecins, il joue, et d'ailleurs pour l'imaginaire c'est assez intéressant de se dire « Mais pourquoi il lui écrit ça ?» Ça veut dire que le margrave a dû entendre Jean-Sébastien Bach jouer quelque chose qui peut-être s'assimilerait au concerto italien qu'on verra plus tard.
Peut-être, éventuellement, mais je crois qu'il le connaissait, il connaissait sa réputation d'excellent virtuose, claveciniste et improvisateur, et il me semble qu'il lui avait demandé de jouer quelque chose ou un concert, etc. Et c'est à la suite de ce concert qu'il avait fait cette commande, il me semble.
Et donc du coup, cinquième brandebourgeois avec un premier mouvement absolument hallucinant.
Oui, et puis comme on disait tout à l'heure, c'est par rapport à la thématique là, qu'on évoque, c'est un peu la naissance ce concerto quand même. Même si c'est un concerto brandebourgeois et non pour clavecin, on y reviendra peut-être après. Mais
donc en dialogue avec la flûte ici et le violon.
Voilà, donc il y a une partie de violon solo, une partie de flûte solo et une partie de clavecin solo. Et c'est une des premières fois, voire la première fois, où en formation entre guillemets orchestrale, le clavecin prend un rôle de soliste et non
cadence,
de continuiste.
Et
avec
démoniaque.
Une cadence qui le met en plus de ça encore plus en avant, je veux dire, de la scène, par rapport à son positionnement de soliste. Donc c'est vraiment tout d'un coup une naissance très lumineuse.
Alors merci à vous l'ensemble Nacarenza et à vous Jean Rondeau d'être avec nous dans le matin des musiciens. On ferme les yeux, on respire parce que c'est un peu de sport quand même, ce mouvement de brandebourgeois.
À qui dites-vous?
Par vous, et merci, merci du fond du cœur d'être avec nous dans le studio 118, c'est à vous. dans le studio 118, l'ensemble Nacarenza avec vous, Jean Rondeau dans ce premier mouvement du 5e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec cette cadence, vous l'avez entendu, absolument hallucinante. C'est historiquement la première pièce qui ressemblerait à un concerto pour clavecin. Nous sommes dans les années 1718-1720 pour la composition en tout cas. Et si vous nous rejoignez dans le matin des musiciens avec vous, Jean Rondeau et Nacarenza, on va parler de ce corpus qui commence plus ou moins là, sachant qu'il y a toujours un temps d'inertie et que cette tradition de la cadence ne naît pas de 1720 précisément. Mais c'est une cadence qui est démoniaque parce qu'il y a ce qu'on appelle le stylus fantasticus, etc. Et qui pose une question au niveau de la forme. Bon, une cadence est toujours à la fin. Mais c'est vrai qu'avec nos habitus d'écoute, on distingue toujours cette cadence de ce qui précède, c'est-à-dire cette forme concertante avec la flûte et le violon. Alors que c'est vrai, si on l'imagine comme un tout qui n'est pas dissocié, et d'ailleurs vous l'avez joué comme ça sans forcément vous arrêter, on se dit que c'est une forme hyper originale, quoi, du début jusqu'à la fin.
Oui, non, mais de toute façon, ce mouvement, même le concerto dans sa totalité, a un aspect extrêmement moderne. C'est vraiment incroyablement moderne, je trouve. Et en effet, cette cadence pose la question, mais surtout, je pense, la question de, tout d'un coup, le clavecin qui va prendre un peu le pas sur la flûte et le violon. Parce que s'il y a une cadence dans un concerto où il y aurait trois solistes, pourquoi c'est le clavecin qui l'effectue? Et en effet, c'est pour ça que je pense que vraiment ce mouvement d'ailleurs, plus que le concerto, fait très concerto pour clavecin. Et en effet, je l'ai un peu tuilé parce que c'est une cadence qui me fait penser, par exemple, aux cadences des concertos pour piano de Mozart ou ces choses-là, parce que on a dans la cadence qui est écrite, évidemment, tous les éléments thématiques, mélodiques, même harmoniques, démarches harmoniques, qu'on a eu tout au long de ce long mouvement, qui se retrouvent là et qui se superposent, qui s'enchaînent. En fait, ça fait quand même improvisation. Donc c'est, pour moi, c'est une grande cadence improvisée. Et à la fin, on le voit bien, même là, ces descentes chromatiques, c'est typiquement quelque chose qui sort des doigts de manière assez improvisée. Donc en fait...
Ouais, et puis même organistique, hein, y a quand même l'idée de l'orgue derrière.
Oui, aussi, complètement, ouais. À la fois, oui, architecturalement, structurellement, au niveau de l'harmonie, etc. Oui, on retrouve l'orgue. Enfin, on retrouve quand même beaucoup de choses dans cette cadence. Elle peut dire beaucoup de choses, cette cadence.
Et c'est vrai que, bon, on peut se dire aussi, c'est comme une photographie de la musique concertante, parce que le concerto brandebourgeois, ça porte son nom pour ça, de la musique concertante dans l'Allemagne du Nord, donc dans ces années 1720, avec une zone de friction très forte, parce que c'est vrai qu'on se dit, cette cadence qui ressort d'elle-même, c'est comme une lutte avec le reste des instruments. C'est comme si le claveciniste disait, bon, je vous laisse de côté pendant 2 minutes, 3 minutes.
Ouais.
Et le dialogue, ça va 2 minutes, mais maintenant, laissez-moi la place.
Mais je crois qu'il y a aussi la théorie émise que Bach était au clavecin. Enfin, même ça, c'est sûr que Bach était au clavecin. Et la théorie qui dirait qu'aussi, il pouvait montrer comme ça sa virtuosité et se mettre en avant. Mais ça, j'y crois moyen parce que Bach n'a pas...
Ouais, c'est un anachronisme post-romantique.
Ouais, voilà. Je pense qu'il s'en fiche de se mettre en avant. En revanche, c'est vrai, comme vous le disiez, Edouard, en début d'émission, s'il va à Berlin, là, dans ces années-là, vers les années 1718-19, c'est pour trouver un clavecin pour la cour, et peut-être qu'il le joue sur le clavecin qu'il a trouvé. Et c'est aussi peut-être pour mettre en lumière l'instrument, pour mettre en valeur les capacités sonores de l'instrument sur lequel il joue, qui est peut-être l'instrument qu'il a choisi justement à Berlin pour la cour de Cöthen. Éventuellement, hein, c'est complètement hypothétique, mais il y a aussi quand même ce rapport avec tout ce que peut donner l'instrument dans cette cadence. Et on a un peu toutes les palettes de jeux, de sons, d'expression, de mouvement, beaucoup, rythmique après, avec les traits, et rythmique, même à la fin, avec ces triolets qui arrivent après les triples croches, qui veut aller encore plus loin, quoi. On a l'impression qu'il veut vraiment aller au bout des choses avec le clavecin.
Alors c'est intéressant parce que cette recherche sur comment on modèle la forme du point de vue de l'instrument, mais aussi dans le dialogue avec nos instruments et de la structure, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu en filigrane dans toute l'histoire du concerto pour clavier. Et en préparant l'émission, on a beaucoup réfléchi aux autres compositeurs un petit peu après, avant il n'y en a pas trop, mais dont les fils de Jean-Sébastien Bach. Donc on reviendra sur Wilhelm Friedmann, Carl-Philipp Emmanuel, qui était à Berlin. Et donc on parlait de photographie. Pour contrepointer un petit peu cette photographie de Bach 1718, voici un concerto de Carl-Philipp Emmanuel Bach. Donc là, nous sommes plutôt en 1772, donc plus de 50 ans après. Carl-Philipp Emmanuel Bach évoque d'ailleurs la possibilité de jouer ce que vous allez entendre en solo. Donc petit clin d'œil au concerto italien que vous jouerez tout à l'heure, Jean Rondeau. Et il les destine spécifiquement au clavecin et pas du tout au pianoforte. Et vous allez voir, il y a une forme absolument hallucinante, avec un premier mouvement qui est assez court, qui fait 3 minutes, et tendez bien l'oreille pour voir comment ça se finit. Et voilà, vous l'avez entendu, cette cadence suspendue absolument incroyable de la fin du premier mouvement qui enchaîne sur ce deuxième mouvement d'un des concertos de Carl Philipp Emanuel Bach, Andreas Steyer au clavecin, le Freiburger Baroque Orchestra, placé sous la direction de Petra Mulayens. Et donc ce langage qui s'appuie beaucoup sur une dynamique qui joue sur l'imprévu, sur des transitions qui sont un petit peu plus longues qu'une carrure très baroque ou très classique, qui est donc la photographie de ce que c'est que le concerto pour clavier, et en l'occurrence clavecin, à la cour de Berlin en 1772, plus ou moins, puisque Carl Philipp Emanuel Bach quitte, vous savez, la cour de Berlin pour la cour de Hambourg dans ces années 1768-70. Alors Jean Rondeau, l'ensemble Nacarenza, ce travail sur la forme, on va le retrouver en fait très tôt chez Bach, à tel point qu'on a même l'impression que dans ces années de formation, entre guillemets, 1713, 1716, le cantor de Leipzig, qui n'est pas encore, emmagasine beaucoup de partitions, notamment italiennes, et qu'il y a une œuvre aussi un petit peu ovni, qui pose beaucoup de questions, c'est le concerto dans le goût italien.
Ah oui.
Que vous allez jouer.
Qu'on appelle concerto italien. Si vous n'avez pas, Edouard, j'aimerais juste revenir un peu à ce qu'on vient d'entendre, parce que je ne connaissais pas cette pièce que vous m'avez fait découvrir, qui est assez incroyable, et c'est vrai que c'est très intéressant, je pense, avec les fils de Bach qui ont expérimenté le concerto pour clavier et pour clavecin, à la fois il y a un style propre, Carl Philipp est complètement, il le dit d'ailleurs lui-même, Jean-Sébastien est son maître, mais il se détache, il fait une très belle carrière, et surtout il développe son langage à lui, ce style galant, mais qui arrive à travers d'ailleurs ses concertos à s'amuser et surtout à expérimenter des choses de forme, quoi, expérimenter des formes et les déstructurer. Et donc là, c'est un exemple assez frappant de ça et qui est quand même assez important de noter parce qu'on a ce style galant, mais qui est complètement un peu tordu, quoi. Il y a un peu de distorsion dans un style galant. Voilà, c'est un peu ça que nous laisse Carl Philipp et ainsi que William Friedman et également aussi Jean Chrétien, Johann Christian Bach.
Donc à Londres, et c'est vrai qu'on reviendra peut-être un petit peu plus tard, Jean Rondeau, sur le cas William Friedman Bach, qui est aussi très attachant à sa manière, dans son langage, dans son expressivité. Mais pour clôturer sur la cour de Berlin, où le clavier, le clavecin, ne jouit pas forcément d'une position très avantageuse, puisque peut-être que de votre côté, vous connaissez l'histoire de cette cour qui est tenue par Frédéric II, flûtiste, Quantz, énormément de clientélisme par rapport à Quantz, et de privilèges.
La flûte est très présente, etc. Ouais.
Carl Philipp Emanuel Bach, très peu finalement aimé et apprécié ou évalué pour son talent. Donc c'est vrai que la question du clavier, elle est aussi particulière sous ce prisme-là, d'un instrument pas trop apprécié. Et donc, il y a un autre exemple très intéressant, pour le coup, de virtuosité assez transcendantale qui contrepointe un peu celle du brandebourgeois. C'est le cas de Christoph Nickelmann, qui est aussi un collègue de Carl Philipp Emanuel Bach, qui compose une cinquantaine de concertos et qui reste seulement 10 ans, de 1745 à 1755, à la cour de Berlin. Mais c'est pour dire qu'on va écouter un petit extrait, que cette virtuosité, quelque part, annonce aussi celle des proto-romantiques et même du côté anglais comme John Field ou même comme Clementi. Thank you. extrait d'un concerto pour clavecin concertant de Christoph Nickelmann. C'est le Presto, interprété par l'Académie für Alte Musik de Berlin avec Raphaël Alpermann au pianoforte. Et c'est vraiment intéressant parce que dans cette trajectoire de la forme concerto pour clavier, on est parti du Brandebourgeois, le 5e, 1718-1720. Là, c'est 1750 à la cour de Berlin. Pianoforte. Et c'est surtout un style, une photographie, encore une fois, extrêmement pré-classique de tout.
Ah bah oui, complètement.
C'est incroyable.
Ouais, ouais, ouais. Voilà, là, on est dans du classique avant l'heure. Enfin, même pas avant l'heure, c'est de la naissance du classique voilà,
dire quand même
à la fin des années de...
Comme
de
les choses vont vite, quoi. On a l'impression que notre époque a le don de brasser les informations et d'aller très vite, d'aller plus vite que 300 ans auparavant.
Oui. Ouais. Non, les choses allaient extrêmement vite également. Et d'ailleurs, même au niveau de la création musicale et des styles musicaux, ça a évolué et en effet beaucoup plus rapidement peut-être, même à l'époque que maintenant. Enfin, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est très divers et très diversifié et donc très enrichissant. Mais il y avait évidemment ces personnalités très fortes des compositeurs qui avaient envie de promouvoir un style ou un autre, le développer en fonction des cours et des années, des siècles dans lesquels ils existaient, ils travaillaient. Ouais.
Et c'est vrai qu'en tout cas à Berlin, hein, que ce soit Nickelmann, ça ne l'a pas empêché de composer ses concertos virtuoses ou Carl Philipp Emanuel Bach. Ce n'était pas une position facile pour des claviéristes à cette cour-là. Mais alors, pour revenir à Jean-Sébastien Bach, puisqu'on va parler, Jean Rondeau, de ce concerto italien, qui est en fait très tôt, hein, 1713-1716, on a quand même l'impression que Bach a presque tout imaginé, quoi, de la forme concerto, quoi,
de ce mot,
polysémie. Quoi.
Alors à la fois, je pense qu'il a tout utilisé en tout cas. Il est allé jusqu'à l'extrême. Après, tout inventé, imaginé, pas sûr, puisqu'il est allé piocher aussi dans l'Italie du coup. Mais voilà, évidemment, je me suis dit en faisant une émission sur les concertos pour clavecin, que voilà, le concerto qu'on appelle grossièrement concerto italien, dont le vrai nom est Concerto nach italianischem Gusto.
Dans le goût italien.
Dans le goût italien, qui se trouve dans la deuxième partie du clavier Rubung. Après, il y a l'ouverture à la française, BWV 831 qui suit. Mais je trouvais ça intéressant de faire ce concerto qui s'appelle concerto, mais il n'y a pas d'orchestre. Il y a un clavecin qui est tout seul. Mais ça reste un concerto. Pourquoi ? Parce que Bach va piocher dans les formes des concertos italiens, et notamment chez Vivaldi. D'ailleurs, après avoir transcrit pour clavecin seul un grand nombre de concertos, que ce soit pour violon ou autre instrument, de Vivaldi, mais même pas que de Vivaldi, aussi de Telemann,
de Marcello, de Migrenzi, etc.
Voilà. Donc, après avoir une vingtaine, je crois, de transcriptions comme ça pour clavecin, sort ce concerto italien qui est quand même un peu une œuvre qui montre le clavecin à son apogée, quoi, son paroxysme. En plus, c'est assez drôle, on est là, quelle année, 1716
Oui, parce que c'est les trois années où il est en gros à Weimar, et puis il transcrit une brochette de concerto.
On a cette espèce de pièce qui met le clavecin à son maximum, pile au moment où les premiers pianos apparaissent également en Italie. Donc c'est, enfin, je sais pas, il y a peut-être une...
Bah oui, parce qu'on en parlera des pianofortés aussi, ouais. Christoforis, c'est 1716-17, Sienne, Padoue, etc.
Ouais. Et donc voilà, donc typiquement la forme italienne, donc un mouvement lent encadré de deux mouvements vifs, avec l'alternance entre l'orchestre et les solos. Et on retrouve tout ça dans ce concerto italien, alors qu'on est au clavecin seul. Donc c'est un tour de force, un peu un tour de magie, puisqu'on a l'impression d'entendre un orchestre, mais quand on ouvre les yeux, on n'a qu'un clavecin devant nous.
Et alors justement, vous dites magie, Jean Rondeau, à quoi tient-elle cette magie ? Parce qu'on sait que ça a été énormément enregistré.
Voilà, c'est quand même aussi une pièce.
J'ai écouté même des versions au piano, et c'est intéressant parce qu'au piano, là pour le coup, je ne suis pas très critique, c'est trop facile de dire voilà, Bach au piano, non. Mais là, je trouve que ça perd beaucoup. Parce que
Je pense qu'on peut trouver des choses très intéressantes dans des versions au piano. De toute façon, on trouvera de tout, puisqu'en effet, ça a été une des pièces quasiment les plus enregistrées dans la musique, dans le répertoire dit classique. Après, il faut noter aussi quelque chose, c'est que c'est une des pièces pour clavecin qui utilise, à mon avis, le maximum la registration aussi du clavecin. Donc, j'explique en deux mots la registration. Donc, par exemple, sur un clavecin à deux claviers, on a un timbre différent sur le clavier du bas et sur le clavier du haut. Donc je vous fais un accord sur le clavier du bas. Fa majeur, puisque le concerto italien est en fa majeur. Et sur le clavier du haut. Voilà, donc le timbre change. on peut également accoupler ces deux claviers, donc c'est-à-dire que je vais faire un accord qui joue à la fois le son du clavier du haut et celui du bas en même temps. Donc un son qui va être, au niveau du volume, deux fois plus important. Et Bach alterne constamment dans cette pièce entre le clavier du bas qui a donc le timbre des deux claviers et le clavier du haut qui a donc son unique timbre, un seul jeu. Et donc il utilise ça tout le temps. Je vais vous donner quelques petits exemples. Je prends le premier mouvement. Imaginez des violons. Des violons, on va dire un violon 1 et 2 ou violon alto qui font ça. En train d'accompagner en fait un soliste. Je suis au clavier supérieur, donc qui sont ces violons-là vont être assez discrets. Et imaginez un violon un peu plus au devant de la scène et qui va jouer une mélodie par-dessus. Voilà, donc déjà avec l'enregistration, Bach utilise déjà des éléments techniques du clavecin. Après, dans la magie de cette pièce, il utilise évidemment d'autres éléments que je ne voudrais même pas essayer d'analyser et de décrire, parce que la magie peut aussi émaner par elle-même de Bach. Par exemple, je suis un peu dans le même type d'exemple. Je prends le début du deuxième mouvement. Et on va dire que je vais jouer la partie de contrebasse. Voilà, des notes répétées dans un registre grave assez fréquent dans ces formes de concerto italien. On va faire la partie du violoncelle. Et par-dessus ça, on va rajouter une partie de alto, on va dire, ou de violon. Alto plutôt. Voilà, là on a un très bel accompagnement de cordes qui s'apprête à accompagner le soliste qui va entrer maintenant. Et voilà, donc là on a le début du deuxième mouvement de ce concerto italien. Donc typiquement on entend une construction orchestrale. Et après, libre à nous d'imaginer. Et je trouve qu'une pièce qui laisse autant place à l'imaginaire, c'est fort, parce que je trouve que c'est un peu aussi un des principes et des buts de la musique. Et pourquoi je parle aussi de violon? Je veux dire souvent le soliste, parce qu'on ne sait pas, c'est pas une transcription ce concerto italien, c'est une œuvre en soi, et donc où on imaginerait, encore une fois, un instrument solo. En revanche, je trouve qu'il y a des exemples qu'on pourrait fournir qui pourraient prouver qu'il s'est orienté plus vers le violon, comme Vivaldi qui a écrit aussi, lui, énormément de concertos pour violon. Je vous fais un parallèle rapide. Par exemple, le concerto pour clavecin en ré majeur, BWV 1054, dont on jouera le deuxième mouvement un peu plus tard dans l'émission, avec l'ensemble. Le troisième mouvement, donc on est d'accord que ce concerto, à la base, est un concerto pour violon. Je vous joue un tout petit extrait du troisième mouvement. Voilà, donc ces traits là, de double croche, face là, la si do, do ré mi, qui sont des ornementations, donc nous viennent directement du violon. Et on retrouve ça très bien dans le concerto italien, ce type d'ornementation. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'on peut penser au violon. Je vous donne l'exemple, tout d'abord l'accompagnement. Notre accompagnement de cordes et notre soliste par-dessus. Et là où on pourrait se dire que c'est un violon. Vous entendez, on retrouve le même type d'ornementation que dans ce concerto. Bon, c'est juste une preuve parmi d'autres. De toute façon, je pense que le deuxième mouvement de ce concerto italien prouve très bien cette espèce de liberté d'ornementation et cette folie de traits, etc., qu'on va retrouver facilement dans l'improvisation des plus grands violonistes de l'époque.
Merci à vous, Jean Rondeau, parce que je vous écoutais. C'est vrai qu'en même temps, je notais des choses sur l'imaginaire au pouvoir, parce que c'est vraiment ça. C'est l'imaginaire au pouvoir, mais l'imaginaire, c'est quoi? C'est un pastiche, un exercice de style concernant le timbre, concernant les figuralismes et même les idiomatismes, enfin les modes de jeu. C'est-à-dire qu'on caricature aussi un instrument au travers de ses propres modes de jeu, en l'occurrence ici le violon italien. Et il y a aussi le pastiche, évidemment, d'un pays et de son style et de son langage. C'est pour ça que ce concerto, c'est important vraiment de ne pas oublier l'appellation d'origine dans le goût italien.
Oui, bien sûr.
Et c'est toute la différence, parce que concerto italien, ce serait relativement plat. Alors, on vous écoute tout de suite, Jean Rondeau, dans ce premier mouvement du concerto dans le goût italien, BWV 971.
Bonne idée. Jouons-le en entier.
Jouons-le. Voilà, vous êtes prêts ?
Allez, je vais tenter. C'est une pièce aussi extrêmement difficile.
Oui.
Ce qui m'étonne peu, puisqu'on cherche à faire sonner un orchestre avec un clavecin. Donc, forcément, derrière, c'est difficile.
Jean Rondeau, je vais essayer. Dans le studio 118. Jean Rondeau dans le concerto dans le goût italien BWV 971, le premier mouvement de Jean-Sébastien Bach dans le studio 118, pour ce matin des musiciens consacré à cette forme qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire, puisque si c'est un concerto, vous l'avez entendu, unique, beaucoup, beaucoup enregistré pour un clavecin seul. Alors c'est vrai qu'on parlait de l'imaginaire, il y a aussi pas mal de musicologues qui ont émis des hypothèses concernant la dimension pédagogique, c'est-à-dire tout simplement formation de l'imaginaire par le biais de la technique, quoi, et des deux,
bien sûr, ouais,
avec l'orchestre,
bien sûr,
les couleurs des instruments
c'est,
dans l'oreille.
C'est vrai que c'est une pièce tout à fait pédagogique, et Bach, en tant que grand pédagogue pour tout le monde, pour les gens qui le jouent comme pour ses élèves de l'époque, nous laisse en effet cet héritage qui nous permet d'apprendre. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, ça va dans les deux sens. Plus on va connaître les fonctionnements de l'orchestre, plus on va peut-être savoir jouer cette pièce. Et inversement, le fait de se plonger dans la matière de cette œuvre pour clavecin nous permet de découvrir même d'autres facettes de l'orchestre dont on ne pouvait pas se rendre compte si on est juste claviériste. Ou... voilà. Donc c'est aussi un lieu d'expérimentation et d'apprentissage surtout.
Et c'est vrai que bon, cette dimension pédagogique, elle rejoint aussi la question de la dynamique, hein, parce que c'est quand même intéressant cette histoire. 1720-1730, le clavecin commence à voir apparaître le pianoforte. Bon.
Oui, même il apparaît plus vite qu'on ne pense. Hein,
voilà, plus vite qu'on ne pense.
Il existe en tout cas.
Voilà.
Bach connaît aussi.
Le clavecin n'est pas dénué de charme jusqu'en 1780, puisque même Carl Philipp Emanuel Bach compose des concertos, on l'a entendu,
sûr,
pour,
ouais,
le clavecin, oui, il dit bien pour le clavecin.
Pour le clavecin, et même Mozart.
Exactement.
C'est des... oui, oui.
Mais alors, recherche de dynamique, parce que on va écouter...
Heureusement
va...
que la transition piano-clavecin, on sait par la suite que le piano a fait quand même un peu d'ombre au clavecin, mais heureusement que la transition s'est faite en douceur, parce que s'il n'y avait plus d'œuvre pour clavecin au 18e...
Non, mais non, c'est vrai que cette projection de l'orchestre, en réalité, questionne aussi la dynamique de l'instrument.
Voilà.
Comment recréer,
oui,
une illusion,
sûr,
de dynamique.
Voilà, le côté typiquement baroque, où on donne l'illusion. Voilà. Mmh. C'est vrai qu'en fait, cette pièce a vraiment son côté... Salut, je suis une pièce baroque, 18e, typique. Parce que je laisse de la place pour l'imaginaire, j'ai un côté pédagogique et surtout je donne l'illusion d'eux.
Bah, ça nous fait penser aussi, en préparant l'émission, évidemment, à ce qui se passe en France. Alors, il n'y a pas de concerto pour,
oui,
clavecin, ça c'est intéressant aussi,
hein, ouais,
au,
ouais,
sens propre.
Mais il y a des choses.
Il y a des choses, il y a des concerts royaux de Couperin,
ouais,
en 1722. Et il y a surtout, peut-être un petit peu plus tard, mais composé avant, les pièces de clavecin en concert de Rameau, 1741, où là, le mot concert, on parlait de la polysémie du mot concerto, mais là, la polysémie est forte, puisque à partir d'un instrument solo, en l'occurrence le clavecin, concert serait plutôt synonyme de musique de chambre, en fait, ou pas.
Par rapport, au...
par rapport à Rameau et aux pièces de clavecin en concert.
En plus, oui, mais il y a aussi la question du terme. Et à partir du moment où on dit concert, enfin concert, concerto, c'est la même chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où le concert ou le concerto va intervenir par rapport au clavecin, c'est lorsque la fonction du clavecin va changer. Et à partir du moment où il devient, c'est ce qu'on disait un peu avec le premier mouvement du cinquième mouvement de Bourgeois, c'est à partir du moment où il devient soliste, et pas n'importe quel soliste, c'est-à-dire aussi comment il est soliste. Et généralement, on n'a pas besoin d'écrire une partie de main droite pour un clavecin dont on le veut accompagnateur. Donc à partir du moment où, si ce n'est pas de la sonate, évidemment, de la sonate à trois voix ou quatre, ou enfin, voilà, avec plusieurs autres instruments, tandis que là, dans les pièces en concert de Rameau, on a une partie de clavecin qui est soliste, il ne nous a pas mis de la basse continue, il y en a certaines qui sont inspirées de ces pièces de clavecin, et puis surtout, il faut entendre... pas dans toutes, évidemment, mais dans certaines, on entend du concert pour clavecin. C'est un concert de clavecin, c'est un concerto pour clavecin, en fait. Concerto pour clavecin. Mais après, évidemment, pas toutes les pièces, mais il y en a certaines qui se dégagent où on entend vraiment un clavecin solo qui joue et une viole et un violon par-dessus qui l'accompagnent. Donc, voilà. Donc, c'est aussi dans l'écriture, évidemment, pas que dans la nomenclature, mais dans l'écriture qu'on va pouvoir aussi décider et choisir.
Et ce côté concerto, évidemment, on l'entend dans une pièce que vous avez choisie, hein, Jean Rondeau, et c'est vous qui jouez avec votre groupe Nevermind, c'est Le Vésinet de Rameau.
Thank you.
Nevermind avec vous, Jean Rondeau, et Anna Besson à la flûte, Louis Créach au violon, Robin Faro à la basse de viol, et vous au clavecin dans ce Vésinet, Do majeur, de Jean-Philippe Rameau, extrait du premier des 5 livres des pièces de clavecin en concert, avec donc la Coulicam et la Livrie, publié en 1741. Et c'est vrai que, bon, encore une fois, on passait de la polysémie du terme de concerto avec vous en Allemagne, à la polysémie du terme de concert en France. En France, on ne compose pas à proprement parler de concerto pour clavier. On est dans une dimension un petit peu plus concertante, musique de chambre, en tout cas. Et c'est vrai que ce lien Bach-Rameau, pour vous, en fait, il est assez cohérent, évident.
En fait, là, on est 10 ans plus tard que, à peu près, les concertos pour clavecin de Bach. Et je pense que c'est important de voyager. Aujourd'hui, on peut voyager beaucoup plus facilement, peut-être, qu'à l'époque, mais beaucoup de compositeurs ont voyagé. Je trouvais ça important de montrer ce qui se passait en France, 10 ans plus tard, avec cette forme et ce clavecin concertant. Et en effet, Bach et Rameau, c'est vrai que c'est deux compositeurs, alors j'aime pas le terme de comparaison, mais que j'aime bien regarder. Les deux compositeurs, j'aime bien les regarder ensemble, parce qu'ils sont tous les deux extrêmement intrigants. Et ils ont à la fois des grandes différences liées à ce qu'ils sont, mais en même temps beaucoup de rapprochements qui m'ont toujours intrigué, parce qu'ils ne sont jamais rencontrés. Mais voilà, pourtant on a deux compositeurs descendus tout droit du ciel et qui ont tous les deux un peu le même positionnement par rapport à, on va dire, leur entourage, leur façon d'écrire de la musique et leur façon de la donner. Enfin, je veux dire, il y a à la fois même l'aspect posthume de leurs œuvres, ces deux compositeurs qui ne sont pas à la mode en plus. Enfin, d'ailleurs, plus pour Bach que pour Rameau, mais Rameau, on connaît son histoire, même les personnages. Il y a aussi cette obsession des chiffres et de la mathématique, chez l'un comme chez l'autre. La place si importante de l'harmonie chez Bach comme chez Rameau. Et même si, en plus, on ne va pas être dans le même langage, mais il y a cet engagement et cet investissement aussi profond. Il y a aussi la ferveur, la foi qu'on retrouve. Enfin, il y a un peu, pour moi, il y a un peu ce côté chez eux. Je suis dans ma tribune d'orgue, laissez-moi tranquille, je ne suis pas un mondain. Et tout
et
ça,
vous êtes
tout
solitaire,
ça,
Jean Rondeau ?
Tout ça parsemé de génie. Alors moi, je ne vais pas répondre à cette question parce que ça voudrait dire que je vais essayer de me comparer à Bach et Rameau. Et ça, c'est hors de question.
Ah non, mais sur le côté, on a besoin quand même d'être un petit peu seul dans sa tribune pour s'en retrouver.
Ouais, ça fait du bien quand même.
marrant parce que vous parliez d'une époque, bon, 1730-1740, mais alors.
Oui, il y a les dates aussi, pardon de vous couper, Edouard, mais il y a les dates, ils sont contemporains quand même. Ils sont contemporains. Allemagne, France, c'est pas si loin. Mais leur musique reste quand même très différente. Et toutes les deux, leur musique extrêmement géniale, dans le sens, ce sont des génies, comme il y en a quand même assez peu. C'est-à-dire, ils sont uniques dans ce genre-là. Et c'est pour ça que deux ovnis comme ça, je voulais les regarder ensemble. Pas les rapprocher ni les comparer, mais les regarder ensemble.
C'est un petit peu comme un match de tennis quand on a deux.
Exactement.
Federer et Nadal, par exemple, c'est un peu pareil. Voilà. Dans deux styles différents, mais bon, il y a des points communs. Mais du coup, sur ce jeu des rapprochements, toujours autour d'une époque, allons-y carrément sur le cas d'un Italien, Giovanni Benedetto Plati, qui meurt en 1763, et qui est un cas absolument unique d'un Italien qui travaille en Allemagne dès les années 1720 et qui compose des concertos de chambre pour cembalo obbligato, bon, clavecin obligé, avec quatuor à cordes, mentionné tel quel. C'est quelqu'un qui est originaire de Padoue, qui a étudié à Venise, peut-être qu'il a croisé Vivaldi, mais il croise à Sienne, grâce à la personnalité de Violanta Béatrice de Bavière, qui n'est autre que la veuve de l'empereur Ferdinand, qui avait été nommée par un Médicis à la tête de la cité du Palio, il croise les premiers pianofortés Cristofori dans les années 1717, juste avant de partir en Allemagne à la cour de Würzburg en 1722. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas si le fameux Gottfried Silbermann, qui construisit les premiers pianofortés en Allemagne, les copia d'après le modèle joué peut-être par Plati dans cette cour de Würzburg, ou celui de Antonio Lotti qui était joué à Dresde. En tout cas, ces concertis sont publiés en 1742, donc juste un an après les pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau. On écoute ici un extrait. Thank you. Concerto de Giovanni Benedetto, plati par le Concerto Madrigalesco avec Luca Guglielmi au pianoforte et à la direction. Musique très intéressante, 1742, composée par cet Italien qui pratique beaucoup le pianoforte depuis ses années vénitiennes et à Sienne, pianoforte Cristofori, mais depuis une cour en Allemagne du Nord, avec un quatuor à cordes, et c'est ça qui est intéressant, dans ce langage qui est vraiment, on pourrait dire, je sais pas, post-baroque, proto-classique, en tout cas complètement dans cette idée que ça va vite, que ça va très vite, cette forme du concerto pour le clavier en Allemagne. Alors, Jean Rondeau, l'ensemble Nacarenza, il nous reste à vous entendre dans un concerto pour clavecin de Jean-Sébastien Bach.
Bah oui, parce qu'en fait, on a beaucoup dérivé. Donc, peut-être revenons au concerto pour clavecin.
Oui, il
on
est temps,
quoi.
On
en dira peut-être quelques mots après. Ouais.
C'est le 1054 en ré majeur, le deuxième mouvement qui est en si mineur. Et c'est vrai que vous parliez du modèle violinistique.
Oui.
Et là, on est en plein dedans.
Oui, bah voilà, par exemple, ce concerto est à la base un concerto pour violon. À la base, c'est le concerto pour violon, BWV 1042 en mi majeur. Et en fait, la plupart des concertos pour clavecin ont été repris, ont été utilisés sous différentes formes. Et la structure, oui, de ces œuvres, comme on disait par rapport au concerto italien tout à l'heure, sont inspirés des concertos italiens, donc en trois mouvements, deux mouvements vifs qui encadrent un mouvement lent, etc. Donc Bach, 12 concertos pour un clavecin devaient être écrits. Cependant, je crois que c'est le 8e qui reste inachevé. Donc on n'a pas de traces des derniers. Et ce qui est assez intéressant avec ces concertos, justement, et vous parliez de la place aussi de l'orgue, enfin du clavier, de l'orgue dans la vie de Bach, c'est vrai que ces concertos sont des œuvres qui sont assez rares chez Bach, dans la mesure où elles ont une destination mondaine, essentiellement. Donc vraiment, on est dans quelque chose qu'on n'a peut-être pas grande habitude.
Quand vous dites mondaine, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça, c'est le Collegium Musicum. Il devait fournir une grande quantité de musique. Il va transcrire des choses. Il va s'amuser avec tout le matériel qu'il a sous la main pour fabriquer des concertos pour clavecin.
Et vraisemblablement des bons clavecinistes, parce qu'il y a aussi souvent l'idée qu'on ne compose pas dans le vide, quoi, qu'on compose.
Bien sûr, pour.
D'ailleurs pour son fils, ouais. Wilhelm Friedman, pour l'orgue et cantate obligée.
Et puis aussi, on revient encore une fois à la question de l'instrument. On sait que Bach, à l'époque, avait un piano sous la main. Donc il y a aussi peut-être cette question. Moi, je trouve que les concertos pour clavecin sont extrêmement clavecinistiques, la partie de soliste. Mais on ne peut pas non plus mettre totalement de côté le fait qu'il n'ait pas pensé... Enfin, en tout cas, il avait la texture du piano sous les doigts. Et donc, voilà, à prendre en compte. On en fait ce qu'on veut, mais à prendre en compte.
Alors, on vous écoute tout de suite l'ensemble Nacarenza avec vous, Jean Rondeau, dans ce deuxième mouvement magnifique du concerto en ré majeur, BWV 1054, et c'est dans le studio 118. L'ensemble Nakarenza avec vous, Jean Rondeau, au clavecin, Yuen Kadiou à la contrebasse, Julien Ainsworth au violoncelle, Laurent Muller à l'alto, Fiona Emily Poupard et Boris Winter au violon. Un grand merci à vous pour ce mouvement lent du concerto 1054 de Jean-Sébastien Bach, ré majeur. Mouvement lent en si mineur absolument magnifique.
Ouais, c'est beau. Oui.
Et c'est vrai qu'on se disait par rapport au fait que Jean-Sébastien Bach est entouré de clavecinistes qu'il a sous la main, il joue très bien, mais donc à Leipzig, dans ces années de sa prise de fonction, hein, 1739, au Collegium Musicum de Leipzig, le café Zimmermann, où il fait jouer justement, on imagine ses concertos. Ça rejoint un petit peu une autre idée, c'est celle de composer aussi pour ses fils, pour par exemple Wilhelm Friedemann Bach, qui quand il a 16 ans en 1726, pourrait jouer ce qu'on va entendre maintenant. C'est absolument magnifique, et c'est vous qui me suggériez ça, Jean Rondeau, c'est une cantate 146 de Jean-Sébastien Bach, qui reprend
un mouvement lent qui est sublime déjà en soi. Voilà, un fameux mouvement lent.
Et donc ce concerto pour clavecin, c'est le ré mineur pour le
voilà,
coup.
Ré mineur.
C'est le premier, 1052. Et alors, ça crée une forme de collage absolument magnifique, voilà, ouais. Avec orgue obligé. Quoi. Et voilà, on imagine que c'est Wilhelm Friedemann, à 16 ans, qui jouait peut-être... Le...
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les concertos pour clavecin utilisent du matériel, quoi. Qui était soit préexistant, soit qui a servi aussi. Donc ça dépend, le sens dépend. Et en effet, ce concerto en ré mineur, qui aussi a été transcrit en concerto pour violon, concerto en ré mineur qui est sublime au clavecin, qui est une pièce magistrale et qui est un des, pour moi un des plus beaux concertos pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Et ben, il a utilisé oui, déjà le premier mouvement pour deux cantates, la 188 et la 146, et ce deuxième mouvement pour la suite, parce que donc, dans la 146, le premier mouvement se fait la symphonia, et le deuxième mouvement, c'est le chœur.
C'est, bah, c'est, voilà. C'est genre un concerto pour orgue qui reprend.
Voilà, qui ouvre la cantate. Et on a ensuite le chœur qui utilise le thème du deuxième mouvement de ce concerto en ré mineur. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on a presque l'intégralité de la partition du concerto, sauf qu'à la place du clavecin, évidemment, c'est un orgue, puisqu'on parle de cantate. Et par-dessus, c'est comme s'il superposait ça avec un chœur. Donc, au niveau harmonique, contrapuntique, déjà que l'œuvre en question est splendide et tirée par les cheveux, on va dire, harmoniquement. En fait, je vais arrêter de parler, on va peut-être écouter, ça suffira.
Il nous faut traverser bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que dit le texte.
Thank you.
qui est une musique absolument incroyable, celle de la cantate 146 de Jean-Sébastien Bach, il nous faut traverser bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu, avec cette citation, vous l'avez entendu, du concerto pour clavecin numéro 1 en ré mineur BWV 10052, et ce collage vraiment, vraiment incroyable. Ce qui nous amène à la fin de ce matin des musiciens avec vous, Jean Rondeau, sur ce principe de travail sur la forme, par la modularité, par la question des dynamiques, de l'imaginaire, et aussi ce travail sur la construction-déconstruction avec un grand bond dans le temps. Et c'est vraiment ça, avec Schnittke, des concertos grosso.
Ouais.
Bon, notamment pour clavecin, le troisième qui est un hommage à Bach, en réalité.
Oui, oui. Ouais.
1985.
Oui, je m'étais dit que c'était quand même sympa de terminer l'émission en faisant écouter le début de ce concerto numéro 3 de Schnittke, qui a été écrit en 1985, il me semble. Donc il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, petite trentaine d'années. Et voilà, un hommage à Bach.
Au travers d'une forme qu'on a vue pendant une heure et demie.
Enfin, exactement.
C'est pas le concerto, mais là, grosso.
Voilà. Qui utilise aussi le clavecin. Voilà, c'est aussi un hommage du coup à l'instrument, un petit peu.
Voilà, avec quelques effets de surprise qui sont des surprises qui ont vraisemblablement la même saveur que celle du langage de Carl Philipp Emanuel Bach ou de l'autre fils, Wilhelm Friedemann. C'est pareil, je pense. Il n'y a pas trop d'anachronisme. Un grand merci à vous, Jean Rondeau.
Merci à vous, Edouard, et merci à tous les musiciens qui m'ont accompagné aussi.
Anna Besson, Louis Créache, Fiona Émilie Poupard, Boris Winter, Laurent Muller, Julien Hensworth, Yuen Kadiou. Un chaleureux merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Pour refermer ce matin des musiciens, un extrait du concerto grosso numéro 3 d'Alfred Schnittke avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. Ricardo Chailly à la baguette, travail de construction des constructions autour de la forme concerto et hommage à Jean-Sébastien Bach. Œuvre de 1985, absolument passionnante. Un grand merci à Jean Rondeau, l'ensemble Nakarenza. Alors Jean Rondeau, il reste quelques jours avant la fin de l'été. Vous pouvez le retrouver à la rentrée 5 septembre à Utrecht, le 12-13 à Strasbourg, programme Rameau, le 20 à l'Opéra Bassy, le 21 septembre à Dijon. Avec Nevermind, ce sera le 18 octobre à Lausanne, et puis avec l'ensemble Nacarenza, surtout beaucoup plus proche de nous, le 30 août, dans quelques jours, au Festival de Sablé, justement une soirée concerto un petit peu marathon, avec tous les concertos pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Un grand merci à Jean Rondeau et à son ensemble. Cette émission a été réalisée par Claire Lagarde, Laura Chachimiak et Adèle Moll m'ont aidé à la préparer, avec aujourd'hui à la prise de son et au mixage Olivier Dupré et Olivier Pasquier. Passez un très bel été pour les quelques jours qu'il reste sur France Musique. Ravi d'avoir passé cette semaine avec nous. À très bientôt, vive la musique et vive les musiciens. Ciao, bye bye.